Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, pardon, ravi de vous retrouver et je suis ému. Ce que j'allais vous dire, j'étais absolument ravi que vous soyez plus nombreux encore à écouter Culture Média. Je me réjouis des chiffres Médiamétrie tombés hier, une hausse de 84 000 auditeurs en un an, soit près de plus 10%. Résultat, 996 000 auditeurs en audience cumulée. Merci encore à toutes et à tous et faites passer le mot. Au menu, aujourd'hui, je vais y arriver. 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture, on va parler séries, on va parler littérature et pas seulement. Notre infomédia dans quelques instants, c'est Brut qui s'agrandit encore. Brut, vous savez, ce sont ces vidéos verticales visibles surtout sur les réseaux sociaux. Ils en sont déjà à 10 milliards de vues en 2019 et ils se lancent dans le podcast avec Spotify. On en parle avec le boss et un philosophe, Charles Pépin, qui va mettre en ligne ses conférences. Nos invités ensuite, depuis janvier, la chaîne France Info, le canal 27, a relifté son 21h minuit avec un duo désormais aux commandes, Nathanaël de Rinxin et Patricia Loison, avec des magazines et un ton neuf. Est-ce que ça suffira pour refaire leur retard sur les autres chaînes d'infos? Je leur demanderai. Et puis enfin, le comédien Hippolyte Girardot pour l'un des films événements de ce mercredi et même de la rentrée, Je ne rêve que de vous. C'est avec Elsa Silberstein. Il incarne Léon Blum dans une histoire dingue et une histoire vraie. Une jeune femme qui a tout sacrifié pour lui, Léon Blum, mari, enfant, pour le suivre jusqu'au camp de Buchenwald en 43. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dakota.
Bonjour Costa. Philippe Mandel. Bonjour
à tous. Je sais pas ce que j'ai, il faut que j'arrive à bien ordonner les syllabes dans ma bouche. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Mandel.
J'y suis arrivé. Comme chaque jour avec vous, on fait le tour de l'actu des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin?
Le CSA sous la menace d'une énorme amende, le retour du rugby sur France 2, Meghan Markle qui signe avec Disney, la France qui veut l'argent de Netflix, Canmerad qui prépare une nouvelle série et le carton du New York Times.
Ça, c'est pour la première partie. Non, je plaisante. La première partie, elle vient, c'est les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé?
Ils ont regardé TF1. La série Magnum est en tête. Les épisodes 3 et 4 d'hier soir ont été suivis par 3 millions de téléspectateurs. Ça représente 17,2% du public. Mais c'est quand même en baisse, un leader en baisse, 760 000 téléspectateurs en moins par rapport à la semaine dernière. Deuxième position pour France 3, La loi de Gloria avec Victoria Abril, qui campe ici le rôle d'une avocate. Le téléfilm a convaincu 3 millions de téléspectateurs. Troisième position pour France 2, Affaire conclue avec Sophie Davant, un programme qui a réuni 2 millions de téléspectateurs.
Qui cartonne déjà l'après-midi, donc qui a cartonné en prime.
Qui a bien marché, effectivement. Déception, en revanche, du côté de M6 qui lançait son nouveau programme, sa nouvelle émission, Qui veut être mon associé, présenté par Julien Courbet. Seulement 1,5 million de téléspectateurs ont regardé ce nouveau format. Mais quand même, le groupe M6 peut se consoler avec une très belle performance, cette fois pour sa chaîne W9, qui proposait le concert de Mylène Farmer Live 2019. Près d'un million de téléspectateurs, 989 000, ont regardé le concert de Mylène Farmer.
Et Mylène Farmer, ça faisait un carton hier sur Twitter. Alors Cyril, vous commencez votre journal avec une vieille affaire qui revient hanter le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Une vieille histoire qui pourrait lui coûter beaucoup d'argent. Pour vous rafraîchir la mémoire, retour au printemps 2015. À l'époque, Pascal Ouzelot, patron de la chaîne numéro 23, conclut un deal avec le groupe Next Radio TV, la maison mère de BFM et RMC, pour lui vendre sa fréquence contre la somme de 90 millions d'euros. L'affaire fait beaucoup de bruit à l'époque, elle choque énormément, on en parle sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le CSA, qui doit donner son aval à cette transaction, refuse de valider cette vente et va même jusqu'à retirer l'autorisation d'émettre de numéro 23 au prétexte d'une fraude à la loi. Selon le CSA, le patron de la chaîne aurait eu l'intention de réaliser une plus-value dès son dépôt de candidature pour obtenir la fréquence 23 de la TNT.
Mais voilà, le CSA se fait désavouer quelques mois plus tard.
En effet, en mars 2016, le Conseil d'État donne raison à Pascal Ouzelot, annule la décision du CSA et finalement, bon gré mal gré, le CSA va finir par donner son aval à la vente de la chaîne à Next Radio TV en juillet 2017.
Vous mettez un point à votre phrase, mais l'affaire ne s'arrête pas là.
Et non, Pascal Ouzelot, non content d'avoir tout de même réalisé une exceptionnelle opération financière, mène depuis l'été dernier une guerre juridique au CSA à qui il réclame 20 millions d'euros de dommages et intérêts. Une plainte déposée l'été dernier, mais la justice ne va pas assez vite au goût de Pascal Ouzelot. Nous avons ainsi appris que l'homme d'affaires a lancé une procédure dite de référé provision. Elle permet aux plaignants de pouvoir toucher une première partie de ce qu'ils réclament. En l'occurrence, l'ancien patron de numéro 23 demande à ce que 10 millions d'euros lui soient d'ores et déjà versés en attendant le jugement sur le fond. Une audience devrait avoir lieu d'ici la fin du mois. Alors, le CSA, qui a déjà été condamné, on s'en souvient, il n'y a pas longtemps, a versé un peu plus d'un million d'euros à la chaîne C8, va-t-il de nouveau devoir passer à la caisse et avec lui le contribuable français, car tout ceci, je le rappelle, c'est de l'argent public. Côté CSA, on m'assure qu'on se battra jusqu'au bout pour gagner cette affaire face à Pascal Ouzelot.
Autre baston, Cyril, on va parler de rugby, le tournoi des Six Nations qui commence samedi 1er février et France 2 a présenté hier son dispositif pour cette édition 2020.
La France n'est pas au mieux de sa forme, mais le tournoi est toujours un événement dans le monde du sport et les Bleus commencent fort car ils affronteront dès leur premier match les vice-champions du monde anglais pour le fameux Crunch. Ça se passera le dimanche 2 février. Notre journaliste Alexandre Omar était hier à la présentation organisée par France 2 et il a demandé à Laurent-Éric Lelay, le patron des sports de France Télé, s'il craignait que la forme très moyenne des Français influe sur les audiences.
Cette année, non. Cette année, je pense qu'on croit tous à la raison qu'une nouvelle ère arrive et que les Bleus vont être très performants. Donc moi, je suis très confiant sur les audiences, notamment sur le premier match, France-Angleterre, qui est un rendez-vous qui est attendu par l'ensemble des Français.
France-Angleterre, ça sera où en France,
ça sera
en Angleterre ?
En France. Côté confiance donc, côté diffuseur, France 2 qui a perdu Fabien Galthié, son ancien consultant devenu sélectionneur des 15 de France, et s'est attaché les services d'un ancien international, Dimitri Yachvili. Nous lui avons demandé comment il pensait se différencier de son illustre prédécesseur.
Je ne fais pas ce métier-là pour me différencier avec qui que ce soit, essayer d'être le plus naturel possible, de partager mon expérience et essayer de faire un peu plus aimer le rugby aux Français, de leur montrer le côté un peu plus subtil. C'est un sport de combat, certes, c'est un sport rugueux, il y a du défi physique, mais il y a aussi ce côté subtil. Le rugby est aussi un jeu d'échecs, c'est ce que je vais essayer de partager, de mettre en lumière.
Un jeu d'échecs auquel participent également les femmes.
Et c'est souvent très méconnu du grand public, mais en parallèle du tournoi des hommes, il existe également un tournoi des Six Nations féminin. La France y participe depuis 1999. Les Françaises comptent 6 victoires, la dernière en 2018. Cette année, France 2 diffusera 2 des 5 rencontres en direct. Peut-être une manière de suivre l'exemple du foot féminin qui a pris de l'ampleur grâce à sa meilleure exposition à la télévision. Alexandre Omar a demandé à Cécile Gray, qui réalise les interviews des joueurs au bord du terrain, si elle pensait que le rugby féminin pourrait suivre la même trajectoire.
Le rugby féminin a ça de formidable qu'il est aujourd'hui incarné par des filles qui sont de plus en plus mises en avant, qui sont de plus en plus professionnelles aussi parce qu'il y a des contrats fédéraux qui sont mis en place donc qui permettent aux filles de ne faire que du rugby de leur vie alors qu'il y en a encore beaucoup et il n'y a pas si longtemps que ça qui travaillaient la journée, allaient s'entraîner le soir, devaient poser des congés sans solde pour aller disputer les compétitions. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une véritable avancée. C'est un rugby super agréable à regarder, le rugby féminin, puisqu'il est, c'est un rugby de vitesse, de jeu debout, de passe, avec des contacts évidemment, puisque ça reste quand même un sport de combat, mais un rugby que les gens ont de plus en plus envie de voir, et en plus avec des très très belles histoires. Et la France, en plus, a la chance d'avoir une équipe de France féminine très compétitive.
Les Françaises qui disputeront la Coupe du Monde de rugby féminin l'année prochaine en Nouvelle-Zélande. En attendant, le tournoi des Six Nations des hommes, des femmes et même des moins de 20 ans, c'est donc à suivre sur France Télévisions à partir du 1er février.
Le couple Harry et Meghan s'apprête donc à quitter la couronne et ils préparent déjà la suite des projets médias.
Ouais, selon The Times, la duchesse de Sussex aurait signé un contrat avec Disney pour une série de projets, des projets qui n'ont pas encore été précisés, mais il semble que cela ne soit pas une question d'argent. Selon le magazine anglais, l'argent qu'aurait gagné Meghan Markle dans cette opération sera reversé à une association de protection des éléphants. Côté famille royale, on assure toutefois que ce contrat, dans lequel pourrait également être impliqué le prince Harry, était déjà en négociation avant que le couple annonce son intention de se retirer de la vie du palais.
Cyril, un mot concernant la future loi de réforme de l'audiovisuel. La France a bien l'intention de faire passer à la caisse Netflix et les autres plateformes de vidéo à la demande.
On en a déjà parlé. Hein. Ici même, le gouvernement veut que les plateformes étrangères participent au financement de la création, au même titre que les chaînes de télé historiques. Le ministre de la Culture avait dit qu'elle devraient au minimum investir 16% de leur chiffre d'affaires annuel. Finalement, ça sera beaucoup plus. On a appris hier que ce taux serait de minimum 25%. Alors, si on fait un calcul rapide, avec plus de 6 millions d'abonnés en France qui payent en moyenne 11 euros par mois, Netflix devra débourser près de 200 millions d'euros chaque année pour le financement de la création française.
Et puis Cyril, deux brèves pour terminer ce journal.
Canmera ne quitte plus le petit écran après Baron Noir, dont la troisième saison arrive le mois prochain sur Canal+, ou récemment La Part du Soupçon sur TF1, le comédien quotidien va cette fois camper le personnage d'une mini-série de 6 épisodes, toujours pour TF1. Il sera accompagné de Jean Reno, un casting de prestige donc pour la une. L'autre réussite, c'est elle se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est celle du New York Times. Le quotidien américain vient de franchir la barre des 5 millions d'abonnés.
5 millions d'abonnés numériques ?
Non, 5 millions d'abonnés, un succès porté essentiellement par le numérique, qui représente à lui seul 4 300 000 abonnés. Sur la seule année 2019, le New York Times a gagné 1 million d'abonnés sur le numérique. Le patron du journal a dit que son objectif était désormais d'atteindre le cap des 10 millions d'ici 2025, dans 5 ans.
Comme on dit beaucoup de patrons de presse, je te préviens, le numérique, ça ne marchera jamais. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
À suivre l'info média du jour avec Brut, le média en ligne connu pour ses courtes vidéo verticale diffusée surtout sur les réseaux sociaux, Brut se lance dans le podcast et on va en parler dans un instant avec nos invités sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'heure Philippe de l'info média du jour.
Si en 2020 t'as un média et que t'as pas ton podcast, t'as raté ta vie. Et comme Brut réussit bien sa vie depuis sa naissance en 2016, il a décidé de se lancer. Brut, vous le savez, sont ces courtes vidéos sous-titrées avec des personnes qui témoignent face caméra, des formats courts, verticaux, faits pour être partagés sur les réseaux sociaux, généralement destinés aux jeunes mais pas seulement, et coupés des médias traditionnels. Et ça fait déjà 10 milliards de vues dans le monde rien que pour l'année 2019. Un média 100% vidéo qui se met au son à partir d'aujourd'hui. Ce ne sera pas sur leur site, mais sur la plateforme de streaming Spotify. On pourra écouter chaque jour 6 contenus audio exclusifs de 3 à 4 minutes et un documentaire de 8 à 10 minutes tous les week-ends. Parmi les premiers sujets, comment on voyait l'amour en 2000, en 1978. J'ai rien compris à ce titre, mais je le cite tel quel, ça ferait une bonne question. Profession bruiteur du cinéma, les femmes dans l'ombre du rap français ou encore 37 ans de réforme des retraites. Waouh, fait. Brut s'est associé au producteur de podcast Paradisio pour travailler l'adaptation de la vidéo à l'audio. Et tout ça pour Spotify, qui lui aussi n'en finit pas de développer son offre de podcast, qui en compte déjà plus de 500 000. Et nous sommes justement avec Antoine Monin, directeur des podcasts de Spotify France. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci de revenir dans Culture Média. Vous étiez venu il y a quelques semaines.
Avec plaisir. Voire
quelques mois, je ne me souviens pas. Avec nous, un philosophe, Charles Pépin. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez vous aussi avoir votre podcast sur Spotify. Vous allez nous dire pourquoi et comment, en essayant d'être bref, ce qui n'est pas votre première qualité. Première question, Antoine Monin, je le chambre. Est-ce qu'on peut faire un podcast de tout, même de philosophie?
Bien sûr, surtout de philosophie, j'ai envie de dire. Non, mais le champ du podcast est infini et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on n'a pas de limitation de temps, on n'a pas de limitation de sujet, donc on peut aussi bien écouter 4 minutes de Brut, comme vous venez de le dire, ouais, qu'une minute de conférence avec Charles Pépin, et je le remercie d'avoir accepté notre proposition, parce que ce qu'il nous raconte, ce qu'il nous explique est passionnant, et voilà, c'est pour nous, c'est évident de faire quelque chose comme
ça. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, là je parle de philosophie, j'enlève toute l'ironie, une minute de philosophie, c'est possible, je crois qu'au contraire, la philosophie, c'était le développement de la parole dans le temps long. Comment s'est fait votre histoire en commun?
Alors, il y a quelques années, on m'a offert le livre de Charles qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Ouais. Puis après, j'ai eu La confiance en soi. J'ai adoré ces bouquins. Je pense que j'ai dû en acheter 5 ou 10 exemplaires et en offrir beaucoup, beaucoup autour de moi.
Ouais, c'est une bonne idée.
Ouais, c'était une excellente idée. Et de fil en aiguille, au moment où on cherche à développer notre offre de podcast, on cherche des sujets, on a pensé et j'ai pensé que ce que faisait Charles, ce qu'il expliquait, cette façon qu'il avait de présenter la philosophie de façon pratique, presque quotidienne, mais avec beaucoup de références. Enfin, c'était passionnant. Donc l'idée était là. Et là, il y a le temps long là, avec Charles pour pouvoir creuser les sujets.
Vous l'appelez Charles, mais je précise à nos auditeurs, moi-même, je n'en revenais pas, c'est que vous vous êtes serré la main dans le couloir. C'était la première fois que vous vous rencontriez.
Ah bah, j'ai lu ses livres, je suis ce qu'il fait, mais c'est la première fois que je le rencontre en vrai. Bah, on fait de l'audio, donc on ne se rencontre pas souvent dans la vraie vie.
Je reviens au temps long, au temps court. Un livre, c'est 200-300 pages. Vous ne faites pas des podcasts d'une minute. C'est quoi l'histoire, Charles Pépin, racontez-nous, c'est quoi l'histoire, comment vous êtes arrivé sur ce podcast? Tout part de vos conférences, si j'ai bien compris.
Oui, voilà, moi ça fait une dizaine d'années que j'ai créé ce séminaire au MK2 Odéon, où une salle de 300 personnes accueille qui veut pour des sujets de philosophie que j'appelle existentielle et pratique, même si parfois elle est aussi métaphysique ou spirituelle.
C'est-à-dire, j'ai pas compris, vous êtes l'hôte ou vous êtes la personne qui parle au micro?
Non, je suis la personne qui parle. De temps en temps, j'ai certains invités, ouais, mais c'est assez rare. Mais j'en profite pour inviter des gens que j'aime bien, des essayistes comme Pascal Bruckner, des philosophes comme Alexandre Lacroix, des psychologues comme Émilie Debeuil. Et au fond, l'idée, c'était de créer un rendez-vous où des gens différents se rencontrent, puisque j'avais beaucoup de public étudiant, lycéen, j'avais beaucoup de public dans les entreprises, beaucoup de public du côté des retraités, beaucoup de coachs, de psychologues. Et j'ai décidé de mélanger tous ces gens pour faire une sorte de séminaire. Ça fait 10 ans que je fais ça. la salle est pleine tous les lundis. Et puis récemment, j'ai eu cette proposition magnifique de Spotify. Ça m'a beaucoup plu parce que ça fait 10 ans à peu près, ou en tout cas 5 ans, que les gens me disent « mais c'est dommage, en fait, le contenu se perd ». Quelque part, ça ne me déplaisait pas que le contenu se perde. Mais à un moment, j'ai trouvé ça vraiment génial que des gens puissent l'écouter après, peut-être entre deux conférences, et qu'il y ait comme ça cette espèce d'archivage, quoi, au fond.
Dans vos conférences, vous répondez à plein de questions. Quelques exemples. Pouvons-nous vraiment tout changer? Les plus beaux trésors sont-ils les plus inaccessibles? Et l'attendait ce bordel? Super question. La joie est-elle plus profonde que la tristesse? Ça se résume en une minute? Comment vous avez accepté?
En fait, je crois qu'il y a un malentendu. En fait, c'est un podcast de 50 minutes. Hein.
D'accord. Ah oui, c'est pas parce que maintenant, vous avez dit une minute.
Non, j'ai dit 4 minutes de brut ou une heure de Charles Pépin.
Ah, vous avez dit une minute. Ouais, bah alors, c'est pour ça que j'ai rebondi, voilà, parce que sinon,
c'est
j'aurais
trop tôt pour moi. Le
d'accord.
Matin.
Oui, mais
d'ailleurs, je précise,
une heure de Pépin. Non, c'est une heure de Charles Pépin.
Et ce qui est passionnant dans la proposition qui m'a été faite, c'est que, en gros, il y a pas de montage. Hein. Enfin, c'est joliment fait, mais il y a pas de montage. C'est-à-dire que c'est un propos, en gros, brut, même s'il est de 50 minutes. Et on retrouve, moi, ce que j'essaie de créer, c'est une sorte de live, une sorte d'improvisation, et c'est ça qui va se retrouver sur le podcast.
Alors, on va pas passer une heure, on va passer une minute quand même, ce qui est long pour un extrait radio. On va entendre un extrait d'une de vos conférences. Cet extrait sera publié le jeudi à partir du 23 janvier. Un extrait en exclusivité, Charles Pépin.
Les derniers seront-ils les premiers? Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous vous identifiez aux derniers et que vous voulez avoir des raisons d'espérer. C'est un peu le sujet du soir. On va procéder par rapport à cet énoncé qui a quand même une origine biblique. Comme on l'a souvent fait, souvenez-vous, pour des phrases qui venaient de la Bible, peut-être le diable est dans les détails, aussi des choses comme ça. On va fonctionner paradoxalement de manière nietzschéenne, c'est-à-dire de manière nietzschéenne sur l'objet qu'est la Bible, non pas bien sûr en pensant qu'il y a dans la parole de Jésus, telle qu'elle est rapportée par des apôtres, ici c'est Matthieu et Marc, quelques vérités tombées du ciel, surtout pas. Plutôt prendre un énoncé comme un bâton de dynamite, c'est-à-dire le prendre dans tous les sens, le faire résonner, le faire exploser, le faire éclater de manière électrique, de manière polysémique.
On comprend qu'on en est simplement aux prémices, que ça dure une heure. Vous êtes en impro, Charles Pépin, vous avez quelques notes, vous lisez un texte.
Alors, je n'ai aucune note et aucun texte. En revanche, c'est une improvisation préparée. C'est-à-dire, je travaille le sujet, j'en parle pendant une semaine, je prends plein de notes. Ouais. Mais quand j'arrive, je me lance pour que la rencontre ait lieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, d'ailleurs, je l'ai dit dans l'énoncé, c'est le côté électrique d'une rencontre. Et puis, bien sûr, il faut aussi préciser qu'une fois que j'ai parlé pendant une heure et quart, il y a une grosse demi-heure d'échange où les gens posent des questions, mais surtout apportent du contenu. C'est ça, le côté séminaire et le côté très vivant. Et donc, des gens ont préparé des choses. Et donc moi, je les accueille et en fait, on crée du commun.
Que va faire Spotify de ses cours ou de ses leçons ou de ses conférences de philosophie? Et est-ce que la philosophie est soluble dans le podcast? On en parle juste après ça.
Le podcast qui a le vent en poupe, et on en parle ce matin dans l'Infomédia du jour avec Brut, le média d'info qui n'est plus 100% vidéo hein, puisqu'il se met au podcast. On continue à en parler avec nos invités dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Dans l'infomédia du jour, on parle de Brut qui se lance dans le podcast et on en parle, Philippe, avec vos invités, Antoine Monin, directeur des podcasts de Spotify France, et Charles Pépin, le philosophe qui va collaborer justement avec Spotify pour des podcasts.
C'est même plutôt Spotify qui va collaborer avec Charles Pépin, puisque Charles Pépin, vous donnez des conférences, oui, au MK2, qui sont des cinémas à Paris, 300 personnes dans la salle, c'est ça. Combien de personnes comptez-vous récupérer sur Spotify qui vont écouter Charles Pépin?
Ouais, ça va être des millions, forcément.
Non, blague à part, pas des millions, mais combien?
En tout cas, nous, on voit dans nos éditeurs de podcasts que la croissance est forte.
Non, mais c'est quoi? C'est des dizaines de milliers? C'est
non,
combien
d'écoutes? Plusieurs centaines de milliers.
Plusieurs centaines de milliers.
Ouais.
Qu'est-ce que ça va changer pour vous, Charles Pépin?
Je sais pas.
Des
encore.
Ventes de livres en plus?
Je sais pas encore, bah, peut-être, mais pour moi, j'adore toucher des gens différents, donc c'est une chance.
En parlant de toucher, est-ce que c'est payé?
Oui. Bien sûr.
Oui, bien sûr. On produit, on enregistre. Donc, il y a un réalisateur, un ingénieur du son, et puis on paye Charles pour son travail.
Le droit d'auteur, évidemment.
Bien sûr.
La radio s'est mise à faire de la vidéo. C'est souvent dans ce sens-là. D'ailleurs, je précise à tous les auditeurs et auditrices qui ici veulent nous voir que nous sommes sur Europe1.fr avec la vidéo. Même s'ils ne veulent pas nous voir, d'ailleurs, nous sommes sur Europe1.fr. Le son arrive avant l'image. Là, c'est l'inverse. Pourquoi adapter des formats vidéo qui marchent très bien, en l'occurrence celui de Brut? Je reviens à mon premier sujet en format audio.
Bah, c'est un autre sujet intéressant. Brut, c'est une patte, c'est une ligne éditoriale qui est très intéressante. Comment on transformait ça en pur audio? C'était une des questions qu'on avait avec Brut et Paradiso. Ils ont fait un super travail d'adaptation. Et donc, c'est une autre phase de cette pièce. Comment éveiller la curiosité? Comment encourager la découverte?
Vous avez pas répondu à ma question. Ma question n'était pas comment le transformer en audio, c'est pourquoi le transformer en audio?
Parce qu'on pense que ça donne un éclairage intéressant sur l'actualité, sur le monde dans lequel on vit. Et encore une fois, en le rapprochant avec Charles, je pense que c'est une autre face de la même pièce, comment on interroge le monde autour de nous. Et on n'a pas toujours le même moment, le même instant pour écouter de l'audio dans les transports, dans sa voiture, chez soi. C'est pas la même consommation que la vidéo. C'est quelque chose de complémentaire et qui apporte un éclairage différent.
Et alors voilà ce qu'on pourra entendre à partir d'aujourd'hui, par exemple sur Spotify. C'est l'extrait d'un podcast qui est consacré, ça tombe bien, à un bruiteur de cinéma.
Tu pars du principe qu'un briquet-bic et un zippo, c'est pas le même bruit. Tu peux imaginer tout ce que je peux avoir dans mes affaires.
Brut, témoignage.
Julien Nodin est bruiteur de cinéma. Entouré d'une équipe composée de Patrick, son ingénieur du son, et de Youssef, son apprenti, il habille chaque plan d'un film de son qu'il fabrique en studio pour rendre plus efficace et plus crédible les scènes de long métrage. Il nous raconte comment il a commencé ce travail.
J'étais un peu feignant à l'école et en fin de compte, j'ai suivi mon père un jour et son assistant partait en retraite. Et il m'a dit, bah écoute, si tu veux, viens me voir. Au début, je suis allé, je faisais flipper le dauphin, j'étais assis par terre dans une bassine, je faisais la queue de dauphin. Puis j'étais content parce que je voyais les films avant qu'ils passent à la télévision, donc j'en parlais aux copains. Puis ça m'a pris, ça m'a plu. J'ai bossé pendant 10 ans avec lui. Il n'y a pas de formation, c'est de père en fils, ou avant c'était de copain en copain, ou alors d'ingénieur du son, Perchman, qui lui demande de faire une porte, un pas, puis tout d'un coup il se met à faire le bruitage, quoi.
Wink. Moi, je fais un petit bruitage. Comment vous choisissez vos formats et la durée?
Bah, justement, c'est le sujet qui va imposer le format ou la durée. Donc voilà, une heure de philosophie avec Charles Pépin, ou 3 ou 4 minutes pour découvrir un métier, découvrir une histoire, comme Brut le fait si bien. Donc on n'est pas contraint par justement un flux.
Pourquoi le format c'est 3 ou 4? Pourquoi c'est pas 10 ou 12 par exemple? Ça correspond à quoi? Est-ce que ça correspond à quelque chose de biologique, n'importe quoi? Par exemple, le temps de trajet pour aller jusqu'au métro ou quelque chose comme ça?
Non, c'est une réflexion qu'on a eue avec les équipes de Brut et de Paradiso. C'est, est-ce qu'on fait une version de 20 minutes? Ou est-ce qu'on coupe cette version avec 4 ou 5 histoires dedans, ou est-ce qu'on coupe cette version de 20 minutes en 3-4 pastilles différentes? Ouais. Donc c'est des tests qu'on fait. Après, soit on peut écouter les 4 ou 5 épisodes différents à la suite, soit on va égrener. Spotify est à la demande et c'est son gros pouvoir, et on entend aussi le pouvoir de la voix, le pouvoir de l'audio. Donc chaque auditeur peut choisir de lui-même comment il va construire son programme personnel.
6 podcasts de 3 à 4 minutes avec Brut tous les jours, plus un format le week-end. Pourquoi publier autant aussi vite?
On avait besoin, vu la richesse de la proposition de Brut, on avait besoin de montrer toute cette richesse, les différents sujets. Donc, comme vous l'avez dit, il y a différentes thématiques qui vont être déclinées. Donc, on avait rapidement besoin de montrer la richesse de tous ces contenus et de toutes ces histoires pour que nos utilisateurs puissent se familiariser avec la proposition de Brut.
Et puis, je précise qu'Europe 1 aussi a son podcast d'actu. C'est 6 fois par jour. Ça s'appelle le Brief d'Europe 1. Et même le week-end, en format magazine, avec un flash info de 2 minutes spécialement pensé pour la commande vocale si vous avez Google, Amazon et Apple. Charles Pépin, vous êtes venu avec un petit flyer, vous allez nous parler d'une conférence que vous allez tenir lundi au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est drôle car vous venez de vous rencontrer ce matin avec Antoine Monin et la conférence s'intitule « Qu'est-ce qu'une vraie rencontre ?»
Voilà, on essaiera de se demander ce qui distingue une vraie rencontre d'un simple croisement. Vous savez, souvent on dit à quelqu'un « je suis très heureux de t'avoir rencontré alors qu'il ne s'est rien passé, ouais, qu'on n'a rencontré personne et qu'on ne va pas changer ». On ne va pas remettre en question ce qu'on est et douter de ses certitudes. Et là, j'essaierai de montrer ce que c'est qu'une vraie rencontre qui, pour moi, est toujours une rencontre de l'autre, de soi et aussi du monde.
Vous continuez la BD avec Jules, 50 nuances de grec.
On vient de sortir le tome 2. Là.
Ouais. Ça raconte quoi?
Bah, ça raconte comment on va chercher dans les mythes grecs de quoi éclairer l'actualité politique et sociale d'aujourd'hui.
Non, ça je sais, ça c'est pour le brief général. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet épisode? C'est quoi l'intrigue?
Ah, il n'y a pas une intrigue, il y en a une par page.
Ouais.
Donc on s'intéresse à chaque mythe pris un par un.
D'accord.
Mais peut-être celui qui résume le plus de tout, c'est celui de Pégase, le cheval ailé.
Ouais.
Où on essaye de montrer qu'on croit qu'on imagine très très loin, qu'on imagine follement, alors qu'en vérité on a juste mis des ailes sur un cheval. Et du coup c'est toute une réflexion sur le pouvoir de l'imagination et les limites de l'imagination.
C'est formidable, c'est une belle allégorie pour les podcasts qui marchent. On ne met pas des ailes à un cheval, au contraire on enlève les ailes, on enlève l'image et ça fait du son. Et on retrouve ça sur Spotify France via Brut. Merci beaucoup Antoine Monin, vous êtes le directeur des podcasts de Spotify France, et vous Charles Pépin, philosophe. On peut vous entendre en podcast à partir du 23 janvier. Et sinon lundi, est-ce qu'on a dit où ça se trouvait? Oui, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.
Merci beaucoup.
Merci.
Patricia Loison et Nathanaël de Rinxin sont nos prochains invités. Ils viennent nous parler de leur collaboration sur France Info Télé à la co-présentation du 21h minuit. Et on les accueille dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est ravis d'accueillir Patricia Loison et Nathanaël de Rinxin.
Honneur aux dames, bonjour Nathanaël de Rinxin.
Merci Philippe.
Je dis ça parce qu'en fait Patricia est venue il y a quelques mois, c'est la première fois qu'on se rencontre ici au micro, donc je suis ravi. Vous étiez l'an passé aux commandes du journal de Télématin sur France 2 et depuis la rentrée, vous incarnez la tranche 21h minuit sur la chaîne France Info, la chaîne télé, le canal 27. Bonjour Patricia Loison.
Bonjour Philippe.
Ex-présentatrice du Soir 3, après 3 années sabbatiques passées au Japon, vous êtes revenue cette année pour présenter cette même tranche la 23h minuit, c'était l'heure sur la chaîne France Info Télé. Et là, vous avez pris du galon depuis janvier, donc depuis quelques jours, vous prenez l'antenne en même temps que Nathanaël pour la case France Info Soir, donc de 21h à minuit, présenté donc en tandem. Pourquoi France Info a-t-elle remanié ses soirées?
C'est un choix éditorial afin de simplifier la soirée, la mécanique de nos soirées. C'est vrai qu'avant, on était un trio. Céline Bosquet n'a absolument pas démérité. Mais c'est plus simple dans notre organisation et dans la manière de présenter l'information et les soirées.
D'accord. Ça n'a rien à voir avec l'audience. J'allais vous demander comment ça marche, les audiences.
Non, ça n'a rien à voir avec l'audience. Puis on s'était posé la question au tout début. Vous parliez du Japon, moi, avant que je revienne, quand on réfléchissait sur la tranche avec Alexandre Cara et la direction de l'info à France Télé, comment on construisait. Et il y a des tranches à 3 sur France Info, il y a aussi des tranches à 2. Et c'est vrai qu'on, voilà, comme on propose plein de choses, qu'on a envie de faire plein de trucs, on s'est dit qu'on a été très gourmand sur ce coup-là. Et
comment ça marche, les audiences, Nathalie? Vous avez les chiffres?
Alors, je vais être hyper honnête avec vous. Je n'ai absolument pas les chiffres. Je suis incapable de vous parler de part de marché, d'audience. On est vraiment concentré sur ce que l'on a envie de faire.
Patricia, vous les avez-vous, les chiffres, en tête?
On les a en tête parce que comme on a encore...
Ah, les chiffres, toi. Ben
oui, ouais, alors dites-nous.
Comme on a, le 23h a encore été leader lundi
des chaînes
du soir sur les chaînes info. On a fait 1,6 de PDA et en général, on est à 150 000 téléspectateurs, ce qui pour une chaîne info est bien le soir. Et je suis contente que ce pari de créer ce qui semblait la vraie bonne idée, on dit des fois les JT, c'est du passé, mais pour les chaînes info qui brassent beaucoup, ce rendez-vous du coup identifié qui fonctionne comme un journal, un JT à papa, on va dire, ça marche bien.
Ce gros journal qui a remplacé le Soir 3 qui avait disparu. Ça fait quelques jours que vous êtes à l'antenne. Quelle satisfaction, quel défaut à corriger?
Oula,
alors... On se rend compte tout de suite, vous savez, moi j'aime beaucoup la Formule 1. Quand ils ont une nouvelle Formule 1, les pilotes, ils font 4 tours de circuit et ils voient déjà tout de suite ce qui va très bien et les 2-3 trucs qu'il faut changer.
Non, ce qui va très bien, je trouve ça beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire qu'on commence par un magazine qui est notre temps fort de la soirée. Tous les soirs, il y a un magazine différent. Hein. Le lundi, c'est le sport. Le mardi, l'Europe. Le mercredi, ouvrez le 1. Ainsi de suite. Avant, il était à 22h et là, il est à 21h. C'est beaucoup plus cohérent parce que, un, ça permet à ce magazine d'exister dans les soirées, d'avoir une identité. Ouais. Donc ça, c'est important pour celles et ceux qui regardent, pour le retrouver. Et puis nous, après, on n'est pas coupé par un magazine d'une demi-heure. C'est un petit peu comme dans le football, quand t'as un moment où pendant une demi-heure, tu fais rien, ouais. Ça te coupe un petit peu les jambes. Hein. Tu sais ça, Philippe, toi qui aimes le foot.
Ouais.
Là, on est dans une dynamique et puis on avance. Et puis il y a Patricia, on est là, je suis à côté.
Les petits défauts à corriger après deux soirées.
Mais c'est toujours après pareil, vous savez ça aussi très bien, quand on fait une tranche de 3 heures à 2, on sait très bien ce qu'on a à faire chacun, et ce qu'on essaye de mettre nous, c'est du lien et dans les transitions. Bon. Et là, comme on doit reprendre nos marques, parfois, on en rigole plutôt, mais on ne sait plus, le plateau est très grand, je ne sais plus où il
vous
est.
Vous êtes perdu.
On passe devant, il est derrière, voilà. Mais on aimerait plus.
Non, on essaye d'exploiter le mieux possible cet immense plateau de France Info. Et puis après, la difficulté, c'est toujours la même le soir, c'est d'arriver à faire venir les invités en direct. Hein, quand vous leur dites « vous êtes invité », ils sont hyper contents. Quand vous leur dites « c'est à 23h30
»,
j'ai piscine,
je dors. Alors justement, vous parliez des magazines. 21h, premier magazine du soir, c'est un magazine politique, c'était hier, qui traite un sujet très austère. Les institutions européennes, s'appelle « La faute à l'Europe ». C'est présenté par Yann-Anthony Nogues. Et alors le démarrage, je veux dire que j'ai été assez bluffé, ne ressemble absolument pas à une émission politique traditionnelle. Voici comment le journaliste présente ses invités, notamment Karim Adeli, qui est député, et le journaliste spécialisé Europe, Jean Quatremer.
Bonjour Kate, Katia Lindlandabourou.
Bonjour Yann-Anthony.
Bonjour Jean Quatremer.
Bonjour.
Vous avez l'air en pleine forme,
en pleine
tous
forme.
Les deux. Jean, vous avez des nouvelles bagues encore?
Pas du tout.
Non, c'est un coup de poing américain, là, je crois, non?
Ah oui, d'accord.
Hein, on dirait.
Vous aussi, vous avez des nouvelles bagues?
Regardez. On a tout ce qu'il faut.
La seule à incarner la sobriété.
Tous les deux, on est équipés.
Non mais vous avez des nouvelles bagues, vous imaginez ça dans l'heure de vérité avec Balladur?
Ouais,
on ne fait pas de la politique comme ça, ou si justement, c'est comme ça qu'il faut faire de la politique maintenant.
Alors je crois que Yann a un ton décalé, et c'est vrai qu'on les voit souvent rire pendant l'émission. Ça m'avait échappé parce que juste après les titres, quand on lance le programme, nous on file continuellement
sur
nos journaux. Bon, bah écoutez, il a des nouvelles bagues. Très bien.
D'accord. Ils vont recevoir François Fillon, Thomas Soto et Léa Salamé. On va voir s'il parle de bagues.
On va en parler à Thomas Soto.
D'autres magazines, il y a un nouveau magazine qui va arriver. Comment s'appelle-t-il? Je ne le retrouve plus, mais vous allez me le dire. Zéro émission.
Eh ben c'est
le vendredi,
c'est un très
exactement.
Bon titre.
Ouais. Non, c'est sur l'environnement, ça fait partie des dossiers porteurs en ce moment. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas encore vu le...
Je vous dis juste un conseil, l'émission. Faites très très gaffe avec ce titre. Parce que si les gens voient dans le programme
zéro émission, c'est le risque du jeu de mots.
Ouais, il faut faire très très attention. Moi j'avais une émission qui s'appelait Demain ici, c'était présenté par Michel Denisot.
Et
on ratait tous les invités, bien sûr. Vous m'avez dit que c'était Demain. Et donc les gens ne venaient pas. Et on a changé le titre de l'émission, c'est devenu La Grande Famille. Vous restez avec nous, c'est une grande famille aussi ici, Culture Média.
Depuis la rentrée, ils incarnent la tranche 21h minuit sur la chaîne France Télé, France Info TV. C'est Patricia Loison et Nathanaël de Rinxin qui sont nos invités. Et on les retrouve dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Depuis la rentrée, France Info Télé a fait des changements dans sa grille du soir avec une co-présentation pour le 21h minuit aux commandes nos invités Patricia Loison et Nathanaël de Rinxin.
Hier soir, je regardais Nathanaël de Rinxin juste après le JT de 21h30. Vous étiez en interview après le journal avec Fred Testo pour une comédie maison. C'est la série Fête des Gosses. C'est un humoriste. On l'a connu, Fred Testo, dans le duo Omar et Fred.
Il a changé depuis.
C'est beaucoup moins. Et aussi, France Info a changé puisque c'est notre sujet. C'est beaucoup moins hard news qu'auparavant, France Info, le canal 27.
Non,
ou c'était un choix comme c'est tombé
non,
comme
c'est
ça
le,
hier
le, chaque soir, on a un grand invité, donc ça nous permet. L'autre jour, on avait Yann Arthus Bertrand. Hier soir, on avait Fred Testo. Dans quelques jours, on aura Laurie. L'idée, c'est d'avoir des personnalités différentes chaque soir qui nous parlent de leur actualité, mais pas forcément. Il y a aussi des invités qui n'ont pas d'actualité, qui nous parlent de l'actualité en général. On discute avec eux, c'est vraiment un échange.
Mais je veux dire
minutes.
Par là que c'est plus un invité people, c'est pas un invité économiste, politique, c'est ça que
je
veux
dire. Il y a aussi des invités qui nous parlent d'économie, qui sont pas forcément aussi connus que Fred Testo. Là on est ouvert à toutes les bonnes idées. C'est Patricia, moi-même qui lançons les invitations au gré de nos lectures, au gré de nos envies, au gré de nos rencontres.
Vous l'avez dit, c'est pas facile de faire venir des gens, par exemple le soir. Hier, il y avait une dame qui parlait, qui analysait le coup d'éclat de Ségolène Royal. Elle est revenue trois fois. Elle n'a pas reparlé trois fois, c'était des rediffs.
Alors la dame, c'est Catherine de Mangea,
voilà,
du service politique de France Télévisions. Et on a la chance de pouvoir bosser avec toute la rédac de France Télé. Et le service politique est avec nous tous les soirs. Donc quand il y a une actu politique, là c'était Ségolène Royal et sa pseudo lettre de licenciement reçue dans sa boîte aux lettres.
Mais ma question était qu'elle ne revient pas. Alors par exemple,
elle était en direct à chaque fois.
Elle est revenue en direct à chaque fois.
Elle est restée
jusqu'à
minuit.
Vous voulez tout connaître de notre cuisine d'âme, elle revient en direct.
Elle est revenue trois fois.
Ouais. Est revenue dans les journaux parce que voilà...
En revanche, Fred Testo, vous n'avez fait qu'une prise.
Non, on n'a pas fait deux interviews de Fred Testo, mais la première interview a été rediffusée. Oui.
Vous suivez la concurrence ?
Alors c'est compliqué, on va pas jusqu'à aller regarder en replay, mais moi quand je fais le JT, on a tous les écrans de ce que fait la concurrence et on voit ce qu'ils font.
Mais on n'a pas le son, donc on les voit s'agiter.
Mais on voit les invités, effectivement.
Je veux dire par là de manière générale, parce qu'en face de vous, il y a des gros noms sur LCI, il y a Julien Arnault qui co-présente parfois le 20h de TF1, sur CNews, il y a Thomas Huc, un gros nom, sur BFM, Bruce Toussaint, qui est également un nom très important. Le 23h minuit, ça peut sembler des horaires confidentiels, sauf que c'est un gros carrefour, et puis pour les CSP+. Ouais. Qui rentre tard, qui se couche tard, vous sentez une pression ou pas du tout? Vous êtes dans votre couloir et vous tracez votre route. Ça vous fait sourire, Nathanaël de Rinxin?
Non, il n'y a pas de pression. Quoi. On a la confiance de la direction, on discute avec eux, on échange beaucoup. C'est normal parce que pour Patricia comme pour moi, ça reste un exercice plutôt nouveau, peut-être encore plus pour moi que pour Patricia, parce que d'habitude je faisais des journaux, c'est écrit dans un prompteur.
Ah bah tiens,
j'ai des petites fiches, j'ai pas de prompteur.
Comment vous allez? Comment ça va, Nathalie?
Ah, au niveau de la santé, mais je suis en pleine forme.
Mais il faut que je pose la question, parce que vous êtes une sorte de miraculé, vous étiez le présentateur des journaux de télématin sur France 2, et si vous êtes passé sur France Info le soir, c'est que vous êtes passé très près d'une catastrophe.
Oh ouais, j'ai fait un AVC comme quelques centaines de milliers de personnes chaque année. J'ai eu la chance et le bonheur d'avoir une compagne qui était à côté, qui a tout de suite reconnu les signes de l'AVC, qui a appelé les pompiers. Voilà, après, c'est dans la logique des choses. On ne se lève pas à 3 heures du matin pendant 13 ans sans laisser quelques plumes.
Ouais.
Et voilà, et logiquement, j'ai demandé à changer d'horaire et j'ai été écouté. Et j'ai eu le bonheur d'avoir maintenant toutes mes.
Faculté.
Toutes mes matinées pour dormir, sauf quand je viens voir Philippe Vandel.
Voilà. Désolé.
C'est un plaisir, Philippe. Et voilà.
Vous avez mis beaucoup de temps, c'était le 1er mai, vous avez mis beaucoup de temps avant d'oser l'avouer. Vous l'avez seulement témoigné le 29 octobre dernier, journée mondiale de l'AVC. Vous aviez peur pour votre image ?
C'est un petit peu comme... Oui, sans doute un petit peu. On ne sait pas trop comment les gens vont réagir. On ne sait pas trop si, dans l'hypothèse où j'aurais eu envie de faire autre chose, si on n'avait pas dit « Non, lui, tu ne mets pas 50 euros dessus parce qu'il a fait un AVC. » C'est comme si demain, je vais demander un crédit. Je ne suis pas sûr que les banques me prêtent de l'argent. Vous voyez.
Oui, te connaissant un peu, c'est de la pudeur aussi. Je ne pensais pas l'image,
c'est de la
pudeur.
Je ne suis pas très conférence de presse, vous voyez, sur « Il m'est arrivé ça ». Ça fait partie... Il y a plein de gens qui ont des AVC. Hein. Je reçois plein de courriers et on en parle.
Et surtout, des jeunes, ce que j'ai appris en préparant cet entretien, c'est que ça touche pas seulement les personnes très âgées, les AVC. Merci beaucoup Nathanaël de Rinxin, merci beaucoup Patricia
merci
Loison.
Merci Philippe.
Je rappelle,
merci
la Philippe. Case France Info soir, vous serez ensemble en duo à partir de 21h jusqu'à minuit sur le canal 27, et également le jeudi, le vendredi, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, le vendredi.
Avec une soirée spéciale vendredi, on fait des thématiques maintenant le vendredi avec Nathanaël.
D'accord, et ça sera quoi la thématique ?
Et nous, on fait les gilets jaunes et pas seulement les émeutes à travers le monde, de l'Amérique latine à l'Irak. Donc voilà.
Merci d'avoir été avec nous en direct.
Et le vendredi d'après, ça sera les Français sont-ils encore les meilleurs cuisiniers du monde à l'occasion de la sortie du guide Michelin.
D'accord. Merci beaucoup.
La réponse est oui, non ?
3 étoiles, je ne sais pas.
Dans un instant, on poursuit avec notre heure culture, mais juste avant, place aux digressions des rats d'auteur. Votre rendez-vous d'humour dans Culture Média avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus. Gilles.Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Rien.
Nous sommes le 15 janvier, Gilles.
Tout à fait. Nous sommes toujours dans le même jeu.
Un jeu, c'est s'instruire.
Qui est né, qui est mort.
Ça vous va ou pas ?
Oui, ça fait passer une bonne journée. Il faudra un jour célébrer les naissances du jour.
Ce sont des gens qui ne seront pas connus. Jacqueline vient de naître, 3,2 kg.
Je souhaite à Jacqueline une très belle vie.
Il y a une personne qui est née aujourd'hui qui est assez fameuse.
Un cuisinier, un sportif, un politique.
Jean-Baptiste Poquelin.
Molière.
Qui est né en quelle année ?
En 1600 et quelques.
Et le et quelques, c'est quoi ?
Et quelques.
Ah oui, ok.
Il est né et quelques.
S'il est né en 1600 et quelques, il est mort en 1600 et quelques aussi. Donc laisser et quelques, c'est pas très intéressant.
Et quelques, c'est-à-dire que sa vie, c'est dans le 1600.
1622.
Il est né en 1622.
Ouais. Vous aimez Molière ?
Évidemment, j'allais dire.
Mais vous venez de le dire.
Bien sûr, ça fait partie des choses, quoi. Une vie
vivante.
Ce que j'apprécie chez Molière et chez d'autres gens, c'est les destins. Ils viennent de là, ils font ce parcours.
Un peu comme
Mike Horn.
Oui. Il a une destinée aussi, mais on était sur Poquelin.
Mais Mike Horn, c'est lui qui est coincé dans la banquise.
Il est décoincé. Il est sorti de la banquise. On va pas passer 3 heures sur une banquise.
D'autant plus qu'elle est de plus en plus fine. Donc.
Voilà. Jean-Baptiste Poquelin, excellent comédien par ailleurs.
Ah bon, vous l'avez vu ?
On sait que c'est un très bon comédien.
Mais on sait.
Molière n'a jamais eu de Molière.
Pierre Tchernia n'a pas pensé à lui décerner un Molière,
Pierre Tchernia, qui est mort.
Ah bon ?
Vous saviez pas ? David Bowie est mort, Pierre Tchernia est mort, Gandhi, il n'est plus de ce monde.
Il n'y a plus grand monde.
Pourquoi on l'appelle le monde s'il n'y a plus beaucoup de monde ?
Parce qu'on continue à en faire le tour.
Comme le désert, il y a beaucoup de rien.
Beaucoup de rien.
Et c'est déjà beaucoup. Sachez que c'est la Saint-Rémy aujourd'hui.
Mon frère s'appelle Rémy.
Votre frère s'appelle Rémy.
Ouais.
Il y a Rémy Julienne, mais c'est pas votre frère. C'est un cascadeur. Donc il s'appelle Rémy Gilles Gaston Dreyfus.
Vous n'êtes pas loin de la vérité.
Rémy
Gaston Dreyfus.
C'est simple en fait. Le 15 janvier 86, Mikhail Gorbatchev a proposé le désarmement des armes nucléaires.
Comment vous savez ça ?
Gorbatchev, il a quand même contribué à plein de choses avec sa tache de vin sur le front.
Vous réduisez Gorbatchev à une tache de vin.
Il est plus petit maintenant qu'avant, vous avez remarqué ou pas ? Il vieillit et du coup la peau se racrapetit. Non, racrapetit, il y a petit.
Se racrapetit et la tache de vin diminue.
Bah oui.
Et vous l'avez vu il y a longtemps ?
J'ai vu une photo de lui récemment et ça m'a perturbé parce qu'il est devenu très très vieux.
C'est très perturbant les gens avec qui on passe notre vie et qui finissent par vieillir.
Et ce jour a vieilli. Demain, il y a un autre jour qui va naître et je vous propose de célébrer sa naissance. Donc à demain,
On sera quel jour demain, Stéphane ?
Le lendemain.
Eh bien, à demain.
C'était les Rats d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Vous les retrouvez demain à 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec l'acteur Hippolyte Girardot pour l'un des films événements de ce mercredi. Je ne rêve que de vous, c'est le titre avec Elsa Silberstein. Il incarne, lui, Léon Blum dans une histoire dingue et une histoire vraie. Une jeune femme, incarnée donc par Elsa Silberstein, qui va tout sacrifier pour Léon Blum, mari, enfant, pour le suivre jusqu'au camp de Buchenwald en 43. Et puis dans Les Indispensables, une série à voir sur OCS de Outsider, directement adaptée de Stephen King, un thriller qui glisse petit à petit vers le fantastique. Margot Barallon a vu tous les épisodes et elle a adoré. Puis de la littérature avec Otage de Nina Bouraoui, l'un des livres les plus remarqués de cette rentrée littéraire d'hiver, car il y a deux rentrées désormais. Une histoire qui nous amène à nous interroger sur ce qu'est être otage de sa propre vie. Nicolas Carreau nous en parle dans quelques instants.